Gaëlle Bianic, vous êtes responsable du développement des talents chez EY.
Des talents, tout à fait.
Alors, plus Chief Happiness Officer, c'est une belle formulation. Quel est votre métier réellement?
Alors, je m'occupe de ce qu'on appelle le développement ressources humaines. Donc,
travail... C'est ressources humaines, c'est la vieille école,
voilà,
non?
On ne dit pas personnel, mais bon, c'est pas très éloigné. Bon, mon travail est de faire en sorte que chacun puisse se développer au mieux dans l'organisation, avec bien entendu un cadre qui est celui des besoins de l'organisation. Donc, d'essayer de trouver le meilleur chemin entre l'individuel et le collectif.
Bien.
Concrètement, peut-être.
Oui.
Donc, je travaille beaucoup sur les programmes managériaux, sur les systèmes managériaux qui font que l'on va s'assurer, finalement, que le management que l'on souhaite avoir chez EY est correctement mis en place. Donc là, on parle des 360 degrés, on parle des engagement surveys, on parle du coaching. On parle de quoi d'autre? Des programmes au potentiel également pour préparer les futurs patrons, les futurs dirigeants d'EY.
Le 9 novembre, vous avez publié un article dans Le Monde.
Oui.
Il avait pour thème les difficultés à recruter ou fidéliser les jeunes chez les grandes entreprises de conseil. Pourquoi cette difficulté? Qu'est-ce qui bloque les jeunes?
Alors, ce qui bloque les jeunes, alors on est tout de même dans un business model dans les cabinets de conseil qui est qu'on est considéré comme des quatrièmes cycles. Donc, c'est vrai que les jeunes passent par chez nous, gagnent en compétences, se développent et ensuite nous quittent pour aller chez les clients, chez leurs parents, j'allais dire. Non, chez les clients. Nous, notre objectif est de les retenir le plus longtemps possible parce que ça nous intéresse de les garder. On croit en eux, on les forme, on a envie qu'ils restent avec nous. Donc l'idée est de s'assurer qu'ils restent le plus longtemps possible. Alors ça s'accentue en ce moment parce qu'en effet le marché de l'emploi est assez tendu et les attentes des jeunes sont différentes. C'est-à-dire que de plus en plus, par exemple, on a organisé une grande journée qui s'appelait First Day. C'était il y a un mois maintenant, où on a fait venir 300 jeunes chez nous pour expérimenter la vie chez EY, pour la vivre avec des équipes et pour voir finalement à quoi ça ressemble de travailler chez nous.
Alors, tout à l'heure, en parlant avant la conférence, on a employé le mot « open space » qui a l'air de rimer avec une sorte de redécouverte de la vertu de la communication au travail. Hein, l'open space, c'était la grande promesse il n'y a pas si longtemps. Vous dites ce mot a disparu de notre vocabulaire.
Alors, on ne parle plus vraiment d'open space. C'est vrai que ça fait une petite dizaine d'années maintenant que l'on travaille de cette façon-là. De plus en plus, on s'est rendu compte que l'open space, c'est à double tranchant parce que, en effet, on favorise les relations entre les personnes, les interactions, mais il y a également beaucoup de gêne et de difficultés à se concentrer, à ne pas être interrompu, etc. Donc on a un système également de green light, red light, qui nous permet de savoir si on est disponible ou pas, et ça fonctionne très très bien. L'idée maintenant est plus d'avoir des espaces à géométrie variable, avec des cabines qui ressemblent étrangement à des cabines téléphoniques d'avant, mais avec des fauteuils très confortables, ou des petits espaces un peu plus grands de réunion aussi totalement insonorisés. On a des alcôves dans différents endroits, on a des endroits avec des poufs, on a des endroits avec des tableaux, des murs sur lesquels on peut écrire. On a beaucoup d'espaces différents dans lesquels on peut se balader et s'installer pour travailler efficacement.
Ça, c'est le fruit d'études pragmatiques que vous avez menées ?
Tout à fait, oui. Et des résultats de nos engagement survey également, qui nous montraient que l'open space, au-delà de l'idéal de collaboration et de désilotage, était peut-être aussi source de nuisance et de pénibilité au travail.
Est-ce qu'on peut l'exprimer à travers l'expérience du coworking, par exemple ? On vante cette perméabilité entre les différents acteurs, même qui ne se connaissent pas, qui se découvrent. Est-ce que ça... Vous parlez d'isolement ou de cabine
D'isolement à certains moments, en fonction des temps de collaboration. À certains moments, on a besoin d'être ensemble. À certains moments, on a besoin d'être seul. À certains moments, on a besoin d'être en équipe. Donc l'idée est d'offrir finalement toutes ces possibilités et d'être flexible et de faire en sorte que ce soit possible. Alors l'idée est également que ce soit convivial, donc que ce soit beau, que ce soit végétalisé, que ce soit des espaces dans lesquels on a envie d'être, avec aussi ce qui est totalement périphérique, hein, mais des baby-foot. On a des baby-foot, par exemple, des tables de ping-pong dans certains endroits, qui sont aussi des endroits où finalement on peut se relaxer quand on en a envie, sachant que ce n'est pas du tout le cœur de notre politique de bien-être au travail, bien entendu.
Je reviens un instant vers vous, Gaëlle. J'avais noté que, et votre voisin va pouvoir réagir dans un instant, que vous n'avez jamais été classé chez EY parmi les entreprises du Great Place to Work. Vous n'avez pas été classé pendant longtemps. Et puis, l'an dernier, vous êtes lauréat. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ?
On a beaucoup travaillé. On travaille depuis de nombreuses années maintenant sur le bien-être au travail, qu'on ne qualifie pas de cette façon, d'ailleurs, chez nous. Hein, on parle de qualité de vie au travail encore. On est assez... assez old fashion. Donc on a beaucoup travaillé sur différents axes. Pour nous, la qualité de vie au travail, le bien-être au travail, c'est avant tout le management, un management inclusif, bienveillant, axé sur le développement de chacun, pour une performance durable. C'est un mot qu'on utilise beaucoup en interne. Une performance durable, ça veut dire écologie de soi, écologie des autres, savoir préserver sa santé psychique, physique. On a des programmes de vitalité, beaucoup de sport que l'on met en œuvre au sein d'EY. On a une salle de sport, on participe au Cross du Figaro. On a eu 1000 collaborateurs qui ont participé au Cross du Figaro il y a un mois. On a des clubs de running. On travaille également beaucoup sur l'environnement de travail. Donc tout ce qui est espace de travail, lieu, sky lobby, endroit où on peut se détendre, endroit où on peut se relaxer en fonction des différents moments de la journée. On travaille également sur l'engagement, la quête de sens. Donc on a de plus en plus de programmes de mécénat de compétences. Aujourd'hui, on a 70 collaborateurs. C'est le Giving Tuesday qui travaille avec des collégiens et des lycéens sur... le handicap. On a énormément d'investissements dans ces domaines, dans l'éducation, dans la culture. Que dire d'autre ? On a beaucoup, beaucoup avancé et je crois que notre bond en avant dans Great Place to Work est sans doute en partie lié à cela. On a fait un énorme investissement sur le flexible working, sur la possibilité pour chacun de faire du télétravail jusqu'à 2 jours par semaine, à adapter en fonction des besoins de chacun, c'est-à-dire que, bien entendu, il faut se mettre en relation avec son équipe et trouver des temps communs. Mais de plus en plus, on a des réunions, on a toujours 1 ou 2 personnes qui sont en conf-call. C'est devenu courant, normal. D'ailleurs, la grève du 5 qui arrive ne nous fait même pas peur. On sera tous en télétravail et on travaillera de la même façon. On travaille depuis de nombreuses années sur ces axes-là et on est content que cela paye au bout d'un moment. On mène également des engagements de survey tous les ans avec une analyse très précise des résultats et des sujets et des irritants justement qui font que les personnes pourraient se sentir mieux chez nous.
Le mot du début, pour ne pas dire le mot de la fin, ça vous inspire quoi, toutes ces démarches, Gaëlle, rapidement ?
Moi, ce que je retiens, c'est surtout que le bien-être au travail, ce n'est pas uniquement pour la beauté du geste, c'est vraiment pour ancrer une performance durable et fonctionner sur le long terme avec des collaborateurs engagés. L'autre chose, c'est la co-construction. C'est vrai qu'on l'a effleuré chacun de nous. Les plus beaux programmes que l'on a mis en œuvre chez EY ont été faits en co-construction. C'est avec notre Young Leadership Board ou alors avec les jeunes au potentiel que l'on a fait travailler sur nos politiques RH et qui ont finalement produit les plus grandes transformations dans notre façon de travailler. Donc c'est aussi une responsabilité. Les jeunes nous poussent dans cette direction et on a tout intérêt à les suivre.